Time 2021. Swing Time sur Swing FM 101.2, la radio du Hot Club de Limoges. Swing Time, préparé et présenté aujourd'hui par Alain Charbonnier. Bonjour Alain.
Bonjour Martine et bonjour à toutes et à tous.
Et à tous et à toutes et à Dominique Gouguet qui est à nos côtés.
Bonjour Martine, bonjour. Et bonjour Alain.
Bonjour, bonjour Dominique.
On ne le reconnaît pas avec ses masques.
Oui. En plus, aujourd'hui, il a mis un chapeau, ça se voit à la radio, ils vont le voir qu'il a un chapeau
il
en plus.
Au ski. On dirait qu'il va partir au ski.
Il a même une écharpe.
Il a même des lunettes.
Moi aussi.
Alors aujourd'hui, le thème, Alain.
Ah ben aujourd'hui, ce sont deux titres de livres que j'ai associés. Mm-hmm. Really the Blues, comme Ezro enregistre.
Oh.
Donc c'est par rapport au musicien Milton Mesmezro, un livre qu'il a écrit qui s'intitule Really the Blues. Mm-hmm. Et puis un autre livre écrit par Hugues Panassier qui s'appelle « Quand Mesro enregistre » et on va entendre des enregistrements auxquels fait référence Hugues Panassier. Voilà ce qu'on va écouter aujourd'hui.
Eh bien, allons-y.
Eh bien, Milton Mesmezro, alors je simplifie, on va l'appeler Mesmezro tout le temps. C'était Milton Mesiro, il avait un nom d'origine russe. Et puis après, ça a évolué, mais on l'a appelé finalement Mesmezro. Il est né en 1899. Donc, c'est il y a très, très longtemps, on est au 21e siècle. Et il est mort en 1972, relativement longtemps, c'était le 20e. C'est un personnage fort singulier dans l'histoire du jazz. Je le disais tout à l'heure, il est issu d'une famille russe et d'origine juive, donc qui avait fui la Russie, qui était très antisémite à la fin du 19e, même déjà avant. Et cette famille s'est installée à Chicago à la fin du 19e siècle. Et le brave Mesmezro est très vite attiré par la musique des Afro-Américains. Et donc, il va fuir son milieu d'origine, qui était un milieu très bourgeois, très blanc, je dirais, très européen dans les goûts musicaux. Et il va fréquenter les musiciens de la région, soit des musiciens blancs qui étaient attirés par le jazz des Noirs, soit des musiciens noirs, puisqu'à Chicago, il avait aussi le choix. Autre aspect du personnage, il a pas mal touché à la drogue, se livrant même à un trafic de drogue, ce qui lui permettait de vivre, mais aussi ça lui a valu beaucoup de déboires. À 18 ans, à peine, il a déjà été condamné, il s'est fait incarcérer pour trafic de drogue. Et où est-ce qu'il a demandé ? Il s'est bagarré pour. Il a demandé à être incarcéré dans la section réservée aux Noirs. Il se sentait déjà plus noir que blanc. Il s'appelait le Nègre Blanc, c'était ça, Mesmezro. Mais surtout, et c'est pour ça qu'on l'écoute aujourd'hui, il était le promoteur et le défenseur du jazz authentique. D'abord, il s'est tourné vers le style Chicagoan, celui des musiciens blancs de Chicago, puis très vite vers le New Orleans, donc la musique des Noirs du sud des États-Unis et bien sûr le blues. C'était un musicien chevronné, il avait appris la musique, il a beaucoup pratiqué le saxophone ténor et plus encore la clarinette. Et il a été l'ami et le conseiller précieux d'Hugues Panassier, à la fois quand Hugues est venu à New York, donc il l'hébergeait à la fin des années 30, et puis lorsque lui, Mesmezro, s'est installé en France. Et je rappelle qu'Hugues Panassier est l'introducteur du jazz, au moins en France, disons même en Europe, et c'est un grand spécialiste mondial du jazz. Il est à l'origine de beaucoup de choses en ce qui concerne notre musique. Hugues Panassier a aussi fondé l'Hot Club de France, auquel a été membre, bien sûr, Mesmezro. Et Mes a toujours défendu, comme Hugues Panassier, le gospel, le blues, le jazz. Donc, Swing FM se devait de proposer une émission sur ce personnage et donc sur l'auteur d'un livre hyper intéressant, Really the Blues, traduit en français bizarrement par La rage de vivre. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est le titre en français. On va commencer par écouter ce musicien. Mais avant, je voudrais faire une petite dédicace parce qu'il y a un monsieur qui habite Saint-Jouvent, il va se reconnaître, c'est Bernard. Et Bernard, il nous a envoyé un petit mot, un petit chèque aussi, un chèque très, très sympathique. Et il nous dit « Merci pour vos diffusions swingantes et de grande qualité sans publicité. Bonne continuation. Eh bien, on va continuer. On dédie l'émission à Bernard de Saint-Jouvent. Ce n'est pas un noble, hein. C'est le lieu où il habite, hein. Bernard de Saint-Jouvent. On va donc chercher les références majeures musicales de Mesmézereau. Et si on commence à lire son livre « Realist Blues », on peut voir au tout début les extraits de paroles d'un blues de Bessie Smith, qui est « Reckless Blues », et qui dit « All you men try to drive me ride ». Comme j'étais une toute petite enfant, ben, tous les hommes essayaient de me tourner la tête. C'était ça, les paroles de « Reckless Blues ». Et ce blues de Bessie Smith a attiré vraiment Mesmézereau vers la culture, surtout, je dis bien la culture des Noirs américains, vers leur langage en particulier. Et c'est avec le langage de Bessie Smith qu'il va rompre avec son milieu d'origine, parce que sa sœur, qu'il avait chargée de taper à la machine les paroles de Bessie Smith, de ses blues, transformait le langage qui était de l'argot noir américain en un langage, je cite Mesmézereau, « collé-monté ». Donc du coup, il s'est mis en colère, il est parti et ils ne l'ont pas revu dans sa famille. Et nous, on va écouter tout de suite Bessie Smith dans le texte et qui va nous chanter justement « Reckless Blues » qui a été enregistré à New York le 14 janvier 1925. Accompagné évidemment par Louis Armstrong au cornet et à l'harmonium, moins connu, sauf pour les spécialistes du blues, comme notre ami Dominique Gouguet, c'était Fred Longshaw, qui d'ailleurs avait été un ami très cher de Bessie Smith, entre parenthèses, mais ça on l'enlèvera au montage. Nous allons continuer avec les musiciens qui ont marqué la jeunesse de Mesmézereau, c'est évidemment Louis Armstrong. Et Louis Armstrong, il va jouer dans le morceau suivant avec son mentor, c'est-à-dire Papa Joe, King Oliver. On écoute donc Armstrong et King Oliver dans Deeper Mouse Blues, enregistré à Richmond le 6 avril 1923. C'était King Oliver qui menait et qui jouait en wah-wah, sourdine wah-wah, et Louis Armstrong prenait les breaks au cornet. À la clarinette, on avait Johnny Dodds, qui était une influence de Mez Mezro, bien sûr, comme tous les clarinettistes de la Nouvelle-Orléans. Je pourrais parler de Jimmy Noon, autre influence pour Mez Mezro. Et puis je voudrais rappeler, pour finir, que Deeper Mouse, le nom de ce blues, c'était aussi le surnom de Louis Armstrong. Voilà. On va pas oublier non plus que Mez Mezro est surtout un gars de Chicago et que c'est dans cette ville, au début du XXe siècle, que de jeunes blancs fous de jazz se sont mis à jouer en essayant de faire comme les Noirs, évidemment. Et ces jeunes musiciens blancs de Chicago seront les premiers partenaires de Mez, un des plus éminents de cette jazzmen, le plus connu peut-être, pas forcément le meilleur, mais le plus connu, ça c'est sûr, était Bix Beiderbecke. Et on va l'écouter dans un classique qui est Jazz Me Blues, enregistré à New York, et non pas à Chicago, à New York, le 5 octobre 1927. Thank you. Je vais donner les solistes tout de même, puisqu'avec Bix, il y avait un gars qui jouait d'un gros instrument là, qu'on a entendu derrière, un petit peu en solo et en break. C'était Adrian Rollini qui jouait du saxo basse, carrément. Au trombone, Bill Rank et à la clarinette, Don Murray qui précédait les 20 mesures de cornet par Bix. Mais on va tout même écouter Mesmero parce que là, on ne l'a pas encore entendu et l'émission s'intitule comme Mesmero enregistre. On va donc entendre Mesmero dans ses premières gravures. Il est très inspiré des musiciens qu'il côtoie, donc ceux de Chicago, ceux qu'on vient d'entendre. C'est la naissance du style Chicagoan. Et on va entendre eh bien, le même thème, le Jazz Me Blues, qui était un thème dénommé Tom Delaney. Et c'est la formation de Frank Teschmacher qui va jouer. Et l'orchestre de Frank Teschmacher, je le prononce à l'anglaise ce nom, mais en fait c'est un gars d'origine allemande. Comme Bix, on pourrait dire Beiderbecke ou Teschmacher, mais enfin ce sont des Américains maintenant, hein, donc on les prononce à l'américaine. Donc Frank Teschmacher était à la tête de cette Chicago Jazz Me Blues, enregistré à Chicago le 28 avril 1928. À la clarinette, c'était Frank Teschmacher, mais au saxo ténor, c'était Mesmero. Au piano, alors, on va avoir des gars là, qui vont avoir une carrière importante, Joey Sullivan, au banjo, Eddie Condon, à la batterie, Gene Krupa. Donc, de futurs musiciens qui seront connus dans le jazz blanc, entre guillemets, évidemment. Mesmero fréquente donc tous ces jeunes musiciens qui se regroupent dans des formations aux noms différents. Alors, par exemple, les Chicago Rhythm Kings, les rois du rythme de Chicago, carrément. Il faut bien se donner un nom qui porte. Et on retrouve toujours les mêmes musiciens. Ce sont donc les créateurs du style blanc de Chicago, mais qui est inspiré du style créole et noir de la Nouvelle-Orléans. Et on va entendre par ces gars-là un standard qui s'intitule « You Found a New Baby » enregistré donc à Chicago le 6 avril 1928. « À la clarinette, c'était toujours Frank Teschpecher. Il joue des fois à peine juste, d'ailleurs. Au cornet, c'était Muxis Spanier, aussi un musicien qui ira beaucoup plus loin. Au piano, on a retrouvé Joe Sullivan. Et au banjo, on a retrouvé Eddie Condon. À la batterie, celui qui tapait bien fort du pied sur la grosse caisse, c'était toujours Gene Krupa. Quant à Mez, on l'a entendu au ténor. Il jouait à la façon de l'époque, d'une façon un peu archaïque tout de même. Mais Coleman Hawkins jouait aussi d'une façon archaïsante, on va dire, à l'époque. C'est assez logique. Nous allons passer à 1933. Mez Mezereau fait ses premiers enregistrements sous son nom. Il arrive dans les studios Brunswick avec un orchestre mixte, qui c'est lui qui l'a constitué. Il s'est adjoint quelques vedettes du jazz noir parce qu'il fréquente beaucoup ces musiciens-là, notamment Benny Carter au saxophone et Teddy Wilson au piano. Voici une de ses premières compositions et arrangements qui s'intitule tout à fait logiquement Swinging with Mez, New York, le 6 novembre 1933. Cette fois-ci, à la clarinette, Mez Mezereau. Ça y est, il y est. À la trompette, c'était Max Kaminski. On voit que les États-Unis, c'est un pays d'immigration tout de même.
Melting pot.
Voilà, un melting pot. Enfin, avant, il y avait des Indiens, il faudrait leur rappeler aussi. Oui. Voilà, il y en avait. Mais là, les Indiens étaient un petit peu plus loin. Nous allons passer à la deuxième séance d'enregistrement sous le nom de Mez Mezereau, qui fréquente de plus en plus les musiciens noirs et qui va très souvent dans le South Side de Chicago, là où se trouvent les noirs, c'est le ghetto noir, où il y a du jazz, où il y a du blues. Et il va enregistrer avec un orchestre à nouveau mixte. Il va enregistrer une de ses compositions, un de ses arrangements, qui est Apologize. Et c'est un disque Victor cette fois-ci. Et il l'enregistre à New York le 7 mai 1934. Eh bien, la clarinette, on a entendu Mesmero, qui est encore perfectible, mais on voit bien qu'il est inspiré des clarinettistes noirs du Sud. À la batterie, pas n'importe qui, c'était Chick Webb, parce qu'il fréquentait même les meilleurs jazzmen de New York, notre ami Mesmero à l'époque. Et tout le reste de l'orchestre est à l'avenant, puisque à la contrebasse, c'est John Kirby. Au trombone, c'est un ami d'ailleurs de Mes, qui est Floyd O'Brien. Au saxophone, on en avait deux, il y avait Benny Carter et Bud Freeman. Alors c'est facile à retenir, celui qui joue très rugueux tout de même, pas terrible, c'est Bud Freeman. Et celui qui joue aérien, velouté, très léger, c'est Benny Carter. Donc je n'ai pas besoin de faire de détails. Et au piano, ben, un tout bon évidemment, c'était Willie The Lion Smith. Et on va profiter que Martine, puisque tu as le disque en main Martine,
oui.
Eh bien... tu vas nous en prendre un autre morceau de la même séance. Tu vas nous envoyer, c'est le cas de le dire,
oui.
Sending the Vipers, s'il te plaît. Merci.
C'est fait.
C'était donc Sending the Vipers, Martine. The Vipers, tu sais ce que c'est ?
C'est pas des vipères ?
C'est pas des vipères.
Non, c'est...
non, c'est ceux qui fument de la marijuana.
Des Vipers, okay.
Voilà, qui fument des muggles, qui fument des joints, voilà, dis-donc. Mais on effacera ça parce qu'on ne peut pas faire de promotion et on ne fait pas de promotion.
On dit, on informe.
On informe,
donc ce ne sont pas
voilà.
Des vipères, ce sont des fumeurs.
Voilà. Et on a entendu comme musicien un très bon trompettiste qui était Ronald Jones, qui était inspiré d'ailleurs de Cootie Williams et de Bob Marley. Pour les autres, c'était les mêmes musiciens, donc le bon saxophoniste Benny Carter à la fin, le nettement moins bon Bud Freeman qui était avant, Floyd O'Brien au trombone, et puis le pianiste, évidemment, Willie Smith, The Lion. Et on va passer quelques mois... Mesmero a le temps de se faire un nouvel ami, c'est le pianiste Fats Waller. Et là, ce coup-ci, il ne va pas monter son orchestre, il va rentrer dans l'orchestre de Fats, dans le fameux Rhythm. Et comme le clarinettiste de Fats, c'est Gene Cedric, il va remplacer Gene Cedric. Mais ils vont être potes, hein, de toute façon. En France, plus tard, ils font des concerts tous les deux. Donc, il le remplace, mais c'est juste pour quelques enregistrements. Mais il a beaucoup d'amis, Mez Mezereau, et il a un bon tromboniste qu'il connaît bien, qu'on a déjà entendu, c'est Flood O'Brien. Bah, il dit à Fats, tu veux le prendre dans l'orchestre? Et Fats, qui est un garçon charmant, il dit, bah, bien sûr, on le prend. Donc, on va entendre Mez Mezereau et Flood O'Brien dans l'orchestre Le Rhythm de Fats Waller. Et on va écouter un joli morceau qui s'intitule Sweetie Pie, New York, le 28 septembre 1934.
On my shoulder, wait until you get a little bit older, you'll be mine, sweetie pie, yeah. Yes, yes,
trompettiste que les plus jeunes d'entre nous ont pu voir en concert à Limoges il y a très longtemps avec les Saints and Singers, et Dominique, il s'en souvient, Herman Autray, tu t'en souviens,
ouais,
voilà. Eh bien, il était déjà avec Mez Mezereau et avec Fats Waller, c'était le trompettiste de Fats à l'époque. On en a vu du monde à Limoges. Hein. Bon, mais je reviens à Mez Mezereau, qui est venu aussi à Limoges. Mais là, je suis en novembre 1938, et on commence là les enregistrements historiques qui ont été faits à l'initiative d'Hugues Panassier. Celui-ci voulait produire des cires de pure musique New Orleans. On est en 38. Le style New Orleans était sans doute un peu moins joué, c'est même sûr. Et Hugues, il voulait absolument faire de la musique New Orleans la plus pure. Donc, il a été voir Mez. Mez Mezereau était chargé de trouver les musiciens. Donc, ils ont d'abord débusqué un gars qui était dans sa retraite, qui ne jouait plus ou presque plus, qui était plus connu sur la scène, qui était un excellent trompettiste, mais ils ont mis un peu de temps à le retrouver. Mais ils l'ont retrouvé. Ce trompettiste, c'est Tommy Lanier. Et comme Hugues voulait un deuxième trompette, ils ont pris un petit jeune, un moderne, on va dire, entre guillemets, qui est Sidney de Paris. Donc on va entendre deux trompettistes avec Mez Mezereau dans un blues révolutionnaire, puisque ça s'intitule Revolutionary Blues. Et c'est un disque Bluebird, tiens, je signale. C'était les Race Series de la compagnie Victor. Et on est à New York le 21 novembre 1938. Les autres musiciens que Mez Mezereau a recrutés, au piano James P. Johnson, pas le plus manchot, à la guitare Teddy Bunn, à la contrebasse Elmer James et à la batterie, batteur de la Nouvelle-Orléans évidemment, Zotte Singleton. Et Tommy Lanier a porté un jugement sur cette interprétation que l'on trouve dans le livre du panassier quand Mezereau enregistre. Et qu'est-ce que dit Tommy Lanier à propos de ce morceau? Et c'est un garçon qui n'était jamais enthousiaste à l'égard de sa musique. Ce n'est pas le gars qui parlait beaucoup. C'est un taiseux, comme on dit en France. Voilà. Eh bien, Tommy, il a dit « Man, there's something here ». Pas bien traduisible, on peut dire. Au moins, il y a quelque chose ici. Hein, ce n'est pas n'importe quoi. Voilà ce qu'a dit Tommy à propos de ce morceau. Et vous l'avez écouté sur Swing FM. Formidable, cette radio, hein, tout de même. D'ailleurs, elle est tellement formidable, cette radio.
Justement,
on a notre ami Pascal qui habite Limoges. Il doit être bien instruit. Il habite du côté de l'ancienne école normale des instituteurs, là-bas, là où des institutrices, je ne sais plus bien. Enfin bon, il habite à Limoges. Hein. Et notre ami Pascal, qu'on remercie de son don, nous dit, lui, il nous remercie avec tous mes remerciements pour le cœur. Et on en a du cœur, Martine,
oui.
Dominique.
Bon.
Et la qualité. La qualité de pas notre cœur, de notre émission,
on
je pense.
Aussi.
Voilà. Merci Pascal. Et je vais bien sûr revenir à ma musique et je vais présenter un autre morceau, mais on est toujours avec Hugues Panassier, toujours dans ses enregistrements. On va prendre la deuxième séance, on est une semaine plus tard. Alors, il y a un nouveau musicien qui arrive, il est en exclusivité pour Brunswick, donc théoriquement, il ne peut pas jouer là. Hugues Panassier voudrait que ce soit celui qui est la tête de file, celui qui apparaît sur le disque. C'est tout simplement Sidney Bechet. Mais évidemment, ça pose un petit problème pour les studios Victor, même s'ils publient ça chez Bluebird. Ray Seri, c'est pour les Noirs. Mais tout de même, ils ne voudraient pas que Brunswick se rende compte que Sidney Bechet travaille comme ça, en douce, pour Victor. Eh bien, nous, on s'en moque. On va écouter Sidney Bechet, Mesmero, dans Weary Blues. Donc, New York, on est le 28 novembre 1938. Je vais donner encore un petit jugement de Tommy Lanier. Alors, il trouvait que le batteur, qui cette fois-ci était Menzie Johnson, ils n'avaient pas repris de Zouti. Ils ne s'entendaient pas trop finalement. Donc, ils en ont pris un autre, c'est Menzie Johnson. Et Tommy, il trouvait qu'il ne poussait pas assez à la batterie. Bon, il était exigeant, hein, Tommy, il faut dire. Et ce morceau, c'est un morceau qui sonne, je trouve, tout de même très, très bien. Et Sidney de Paris, lui aussi, a porté un jugement. Il a dit à Mez la chose suivante. « Man is really walking down the street in New Orleans. » On a vraiment l'impression de marcher dans les rues de la Nouvelle-Orléans. En tout cas, l'objectif d'Hugues Panassier était atteint. Alors, je signalais tout à l'heure qu'il y avait trois séances par Hugues Panassier en 1938. On va donc passer à la troisième séance. Et on est toujours sous la direction musicale de Mesmero. On va écouter donc un extrait de cette dernière séance. C'est un blues rapide qui est entamé par le guitariste Teddy Bunn. il fallait qu'ils jouent un petit peu vite, ils avaient passé un petit peu trop de temps, donc le studio devait être libéré. Donc il fallait forcément un morceau en tempo rapide. Et ça s'intitule « Getting Together, New York, le 19 décembre 1938 ». Avec Bob Foster, qu'on vient d'entendre, et Menzie Johnson, donc contrebasse et batterie, eh bien, on s'est rendu compte que Tommy Lanier dominait tout le monde, mais il dominait tout le monde forcément, parce qu'il était installé au moment de l'enregistrement sur une estrade juste à côté de Menzie Johnson. Et les musiciens étaient devant. Tommy, il l'avait mis derrière sur une estrade. Tout de même, ça, c'est précis. Et peut-être qu'on se demande comment est-ce que je sais cela. Eh bien, tout simplement parce que c'est écrit dans le livre de Hugues Panassier quand Mesereau enregistre. Voilà, il y a le plan, on a tout dans ce livre qu'il faudra que l'on se procure, tout le monde évidemment. À partir de 1945, Mesereau va créer sa marque de disques qui s'appelle King Jazz. Et on y trouve notamment les excellentes sessions Mesereau-Béchette, Sidney revient aux côtés de Mesereau. On va écouter un titre en deux parties qui est présenté par Mesereau lui-même, donc je n'ai pas besoin de le faire. On y va.
Really, the blues, which later became the title for my book, is another title that I invented in the studio. The melody I created while sitting in, as we say in musical parlance, with a small group in a Harlem club in the early 30s. After we had recorded the number, Béchette had played the blues so wonderfully well that it gave me the idea for the title, and I named it Really the Blues. Thank you.
donc deux clarinettistes, Mez Mezro, dans le premier morceau, c'est lui qui prenait le premier solo, et Sidney Bechet qui prenait donc le deuxième solo, ensuite c'est facile, et puis Bechet est très flamboyant, très véhément, on l'entend beaucoup, fort vibrato, on le reconnaît très bien. Au piano, Wesley Socks Wilson, à la contrebasse, Wellman Broad, et à la batterie, Baby Dodds, des gars de Nouvelle-Orléans, évidemment. Un fabuleux quintet. On va rester avec les disques King Jazz et avec le Mezro Bechet Quintet, et on va apprécier cet hommage à Tommy Lanier, qui va être joué par Sammy Price au piano, Pop Foster à la contrebasse, Kaiser Marshall à la batterie, plus Mezro et Bechet évidemment, Tommy's Blues, Chicago, le 19 décembre 47.
Hey Sidney, remember them old blues Tommy used to play?
Mezro, how could I ever forget them?
Well man, let's make them for old Tommy. Hey Jimmy Blythe Jr., knock us out an introduction on the piano and take them away.
Thank you.
Passons maintenant à la période française de Mesmézro. Donc à partir de 1951, Mez se fixe à Paris où il va finir sa vie. Il continue d'enregistrer, le plus souvent avec des formations mixtes, américaines et françaises, noires et blanches, si on peut dire. En voici une avec Lee Collins à la trompette, Mowgli Jospin trombone. Alors Mowgli Jospin, c'est celui que Lionel Jospin devait appeler Tonton, c'est son oncle, tout simplement.
Oui, bien sûr.
Guy Lafitte au ténor, André Persiani au piano et Zotte Singleton à la batterie. Et on écoute pour la deuxième fois aujourd'hui Revolutionary Blues, number 2 évidemment, parce que c'est le deuxième, disque Vogue, Paris, le 16 novembre 1951. Lee Collins s'exprime avec un talent fou sur le blues et que Mez a piqué l'esprit du blues. Dominique,
absolument.
Qu'est-ce que tu en penses?
Exactement, mon cher Alain.
Voilà, là on est dans le blues, Martine, c'est le blues en ce moment.
C'est ça.
On va passer à 1953. Mesmézro va jouer au Théâtre des Champs-Élysées. Alors le Théâtre des Champs-Élysées et le jazz, c'est assez ancien puisque c'est là qu'avait eu lieu la Revue Nègre, que Joséphine Baker s'était présentée, avait dansé, que Sidney Bechet avait joué dans les années 20. Mais là, Mesmézro, dans les années 50, il va donner un concert mémorable et la firme Vogue qui s'intéressait au jazz à Sidney Bechet. En janvier 51, Vogue avait enregistré Petite Fleur, notamment de Sidney Bechet, mais d'autres choses, eh bien, arrive. Et fait venir Mays avec Buck Clayton, Red Richard et Kansas Field dans le studio. Donc Buck, trompette, Red Richard, bien sûr, au piano, Kansas Field à la batterie. Et à l'issue du concert, enregistrement chez Vogue. Et on va entendre pour la deuxième fois aujourd'hui Swinging with Mays, mais la version Vogue, Paris, le 2 avril 1953. Précision à donner et une question à poser. La précision, c'est qu'il manque le contrebassiste. C'était Pierre Michelot qui avait été appelé juste pour cette séance chez Vogue. Et puis, un joueur de kazoo qu'on entend au début. Le seul qui a les mains libres à ce moment-là, il ne soupe pas dans sa trompette, c'est Buck. Alors, est-ce que c'est lui? Mais ça peut être quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un qui est monté sur scène? Peut-être monsieur le directeur du théâtre des Champs-Élysées qui avait une vocation d'artiste? On ne sait pas. Bon. Enfin, il y a un joueur de kazoo. L'enquête est lancée. Le commissaire Dominique Gouguet va mener l'enquête. Il nous donnera la réponse bientôt.
Non, c'est un auditeur qui va téléphoner pour
un
te dire
voilà.
qui était le joueur de kazoo.
Qui était le joueur de kazoo de Swinging with Mays. Voilà, la question est posée au monde entier. On va écouter un extrait d'une autre séance mémorable d'enregistrement de Mesmero chez Vogue. C'est celle de mai 53, donc c'est le mois suivant. Il est entouré des mêmes musiciens, sauf la contrebasse qui est tenue cette fois-ci par George Adjo. Et puis, il y a le copain Gene, qui a été remplacé par Mays chez Fats, quelques années, eh ben Gene Cedric, avec sa clarinette, y joue en duo avec Mez. Et c'est un vibrant hommage au pianiste Fats Waller qu'ils vont nous faire. C'est Mez qui expose à la clarinette, parfaitement, son déchirement pour la perte de cet ami qui est mort juste 10 ans plus tôt. Ça s'intitule tout simplement « Blues for Fats Waller », Paris, le 26 mai 1953. Donc deux clarinettistes, et il y en avait un très bon, les deux étaient bons, mais Gene Cedric, Dominique, il joue le blues, le gars.
Hein. Il joue le blues, et puis je te signale que notre président Alain Réjou
souhaiterait
que tu fasses une émission sur Gene Cedric.
Oh là là,
il va falloir t'y mettre, mon cher Alain.
Oh ben, comme personne n'a entendu ça, donc je fais ce que je veux, évidemment. Bon, on va essayer de lui faire une émission sur Gene Cedric à monsieur le président. Mes respects.
C'est la moindre des
choses. Sur Gene Cedric. Voilà, on va le faire. En tout cas, je pense que les auditeurs ont compris que Mez Mezereau était aussi un adepte du blues. Parce que si jamais on ne l'a pas compris, l'émission est ratée, je recommence tout de suite. C'était un nègre blanc, comme ça, qu'il s'appelait, qu'il se considérait, rappelez-vous, son entrée en prison à peine 18 ans dans le quartier des Noirs. On a aussi noté que Kansasfield, qui était le batteur, avait beaucoup écouté les batteurs néo-orléanais parce que là, il pratiquait le jeu du roulement en tempo lent sur la caisse claire. Si ça n'a pas été bien noté, On fait un petit podcast de l'émission et on s'en rend compte à la deuxième audition. Nous allons terminer l'évocation de Milton Mesmero en écoutant un de ses derniers enregistrements longue durée. C'était la mode des long playing, longue durée. Voici la version en tempo vif, parce qu'il y a un tempo là aussi, de blues avec un pont en français dans le texte. C'est un disque que je signale aux plus jeunes auditeurs et aux plus jeunes auditrices, un disque d'Ducretet Thompson. Ça, ça ne nous rajeunit pas, Martine.
Ah non, Ducretet Thompson.
Voilà. Eh oui. Et c'était à Paris, ça on connaît. Et c'était à la Scola Cantorum le 20 mai 1955. Tu nous mets le disque Ducretet Thompson sur le plateau, s'il te plaît. avions même deux trompettistes ici, Guy Longuyon et Pinus Holland, un Français, un Américain, un pianiste, Milton Seeley, et un batteur qu'on a déjà entendu, Kansas Field, et c'était du blues dans la tradition, comme Mesmero aimait en jouer. Et je voudrais, tu vois, Martine, faire un petit bonus, offrir un bonus,
oui,
faire un petit morceau en plus. Parce qu'il y a une rareté qui a été trouvée dans notre bonne ville de Limoges. Dans notre bonne ville de Limoges. Mesmero était en concert en France pendant l'hiver 1954. Et le 21 novembre 1954, il jouait avec Lee Collins à la trompette, Jimmy Hershey au trombone, Claude Bolling au piano et Freddy Moore à la batterie à Pleyel, à la salle Pleyel, 21 novembre 1954. Jour pour jour, un mois après, donc le 21 décembre 1954, cet orchestre arrivait où ? À la gare de Limoges-Bénédictin.
Oui.
Voilà. Et ils étaient accueillis par qui ? Par Jean-Marie Mas et toute sa bande. Et ils venaient, bien sûr, faire un concert. Et on va écouter, pour clore notre émission du jour, eh bien, un décapant Tiger Rag, enregistré à Limoges au cinéma Le Paris, tout ça est précis, donc le 21 décembre 1954. On écoute bien.
Et c'est sur le fameux Tiger Rag que joue Freddy Moore.
C'était l'orchestre de Mesmero, c'était beaucoup Freddy Moore à la batterie qu'on entendait, mais il y avait tout de même deux autres personnages, si j'ose dire, importants. D'abord, Jean-Marie Mas, on a entendu sa
qu'on
voix,
a entendu, oui.
Et ensuite le public de Limoges qui s'exprimait aussi. Donc c'était un disque rare, et c'est un extrait d'un disque qui s'intitule Harlem à Limoges et qu'on peut se procurer auprès de la Bibliothèque francophone multimédia, la BFM de Limoges. Si on n'y arrive pas, on écrit, on prend contact avec Swing FM qui fera le lien. Maintenant, vous en savez un peu plus sur le personnage de légende qui était Milton Mesmero. Pour ce que sont ses influences, son style, cette émission vous l'a fait entendre. Pour mieux appréhender sa pensée, il faut lire « Really the Blues » en français, « La rage de vivre ». C'est un véritable roman noir, sans jeu de mots, un témoignage historique et sociologique sur les États-Unis d'hier, et j'aurais tendance à dire d'aujourd'hui aussi, ça n'a pas tellement changé. Ce livre se trouve sans problème dans toutes les librairies ou sur Internet, si on veut. On le trouve en édition de poche ou dans l'édition Buchet-Chastel, qui l'a reproduit à nouveau. Et si on veut rentrer dans l'intimité d'un studio d'enregistrement et aller à New York en 1938, il faut se procurer, quand Mesro enregistre, Duc Panassier. L'un, il faut écumer les bouquinistes, on peut le trouver chez les bouquinistes, ou sinon, on va de nouveau sur la toile, et on peut le trouver, j'ai même vérifié, moi-même personnellement, comme dirait l'autre.
Oui, je.
Je l'ai trouvé, la référence, et j'ai même trouvé une version liseuse. En anglais, Kindle.
Oui, c'est ça, la Kindle.
On le trouve.
C'était Swing Time 2021. Swing Time sur Swing FM 101.2, la radio du Yacht Club de Limoges, ça vous le savez, et Swing Time qui avait été préparé et qui vous a été présenté par Alain Charbonnier. Merci Alain pour ces moments délicieux.
Me, myself and I te dis merci et au revoir à tout le monde.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir à tous et à toutes.
Au revoir.